rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question, pour ainsi dire, d'un Canadien, même s'il est né en France, c'est Monseigneur Vital Grandin, qui a tellement vécu longtemps ici. Il est arrivé à 25 ans comme missionnaire oblat de Marie Immaculée. Il a fait un travail absolument fantastique dans le Grand Nord. On l'appelle d'ailleurs l'apôtre du Grand Nord et des prairies de l'Ouest, dans des régions qui n'appartenaient même pas au Canada encore. Et il est né en 1821 et mort en 1902. Il est né un 8 février 1829. Il y a donc 170 ans, comme vous voyez. Et c'est vraiment le prototype du grand missionnaire. Il a d'ailleurs été déclaré vénérable. Il sera probablement béatifié et canonisé. Surtout quand vous aurez écouté tout ça, c'est extraordinaire. Il est né à Saint-Pierre-sur-Orthe, c'est dans la Mayenne, ça, en France. Et puis, il est le 9e d'une famille de 13 enfants. On en avait des enfants dans ce temps-là, 13 enfants. Et ses parents, qui sont heureusement profondément chrétiens, vivent dans un état proche de la misère, dit-on. Puis, son père est tour à tour un petit cultivateur. Ensuite, il réussit à ouvrir une auberge. Et puis, dans son auberge, il a une boucherie. Puis, après une enfance pleine de difficultés à cause de la pauvreté, là, puis pleine de privations, à l'âge de 16 ans, il est placé au petit séminaire, dans un petit séminaire voisin, à Précigné. C'est un groupe de personnes qui s'intéressent à sa vocation, qui lui font cette charité, espérant qu'il va devenir prêtre. Parmi ces gens-là qui l'aident, il y a justement le secrétaire de l'évêque du Mans, l'abbé Sébeau, qui va s'en occuper. Les prêtres engendrent les prêtres, je le dis souvent. Ah, les prêtres ont des enfants, mais ce sont des enfants qui sont des séminaristes et qui deviennent prêtres, ça arrive très souvent. Et c'est lors donc de son séjour dans ce petit séminaire de Précigné, il va être là de 1846 à 1850, que commence là à se dessiner non plus simplement une vocation de prêtre, mais une vocation de missionnaire. Il écrit d'ailleurs à son bienfaiteur, à l'un de ses bienfaiteurs, le monsieur Sébeau, dont je viens de parler, l'abbé Sébeau, le secrétaire de l'évêque du Mans, là. Il écrit ceci. « Depuis assez longtemps, je pense à m'embarquer. Pas tout de suite, cependant. Pour les missions étrangères. On en a ici des missions étrangères à Pont-Vio, là. Les jeunes, si ça vous intéresse, les missions étrangères à Pont-Vio, formidable association de prêtres qui partent un peu partout dans le monde. Ils sont extraordinaires. Je les ai déjà rencontrés. Ils sont merveilleux. Et vous pouvez aller aussi chez les Oblats, évidemment, puisqu'il va entrer plutôt chez les Oblats, lui. Alors donc, depuis assez longtemps, il dit, je pense à m'embarquer, pas tout de suite, pendant, pour les missions étrangères, mais je ne puis pas encore dire, je le veux vraiment. Car tant de raisonnements pour et contre se présentent à moi que je ne sais pas réellement à quoi Dieu m'appellera. Aujourd'hui, je vois le bonheur d'un saint missionnaire qui a tout abandonné pour procurer la gloire de Dieu, pour souffrir et peut-être même mourir pour lui. Mais demain, j'entreverrai le bonheur d'un bon prêtre de campagne qui fait beaucoup de bien tout en vivant au milieu des siens. Et d'autres fois, des raisons purement humaines, il faut l'avouer, me disent « Ne te fais pas missionnaire, il te faudra abandonner ta famille, ta patrie, tes frères, tes sœurs, qui ont tant de mal à payer tes dettes et les leurs, et qui n'auront pas même le bonheur de te voir prêtre. Tu n'as pas d'ailleurs les facultés qu'il faut avoir. Puis en plus de ça, mais il faut savoir les langues, et tu n'apprends que bien difficilement. » À ce moment-là, il a 21 ans. Donc après un séjour d'un an là au Grand Séminaire du Mans, un an seulement au Grand Séminaire du Mans, ce jeune Vital Grandin décide de demander son admission chez les Jésuites, ou bien peut-être chez les prêtres des missions étrangères à Paris, sur la rue du Bac, là, près de la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Allez visiter ça, il y a un musée là, extraordinaire. Les missions étrangères de Paris. Alors, Vital Grandin choisit les missions étrangères. Alors, on le reçoit à l'essai. On veut voir comment il est. Puis, 2 mois plus tard, M. Sébeau, qui s'en occupe, là, l'abbé Sébeau, l'informe que l'on serait heureux de l'admettre chez les missions étrangères, mais que son défaut de langue, il a un léger zizement. Ce serait tout un inconvénient pour apprendre les langues étrangères. Puis, l'abbé Sébo ajoute que sa place est toujours prête au séminaire du Mans. À moins, dit-il, c'est le texte, que vous ne préfériez frapper à d'autres portes encore. Mais Vital Grandin ne veut pas retourner au grand séminaire du Mans. Il a peur que le refus des missions étrangères lui ferme l'accès d'autres congrégations missionnaires. Alors c'est alors qu'un de ses camarades, chose étonnante, merveilleuse, lui parle des oblats de Marie Immaculée qu'il ne connaît pas parce que c'est assez nouveau. Il écrit plus tard à ce sujet, « Je ne connaissais pas les oblats. Si je les avais connus, peut-être le seul nom d'oblat de Marie Immaculée m'aurait gagné. » Plus loin, il dit, « Si je suis admis chez les oblats, je serai bien heureux parce qu'il paraît que je serai assurément missionnaire. Mais je n'ose pas m'adresser à d'autres congrégations où il paraît que je n'aurai aucune certitude d'aller en mission, ni même d'être employé dans le ministère, ce que je désire avant tout. Comme je ne me sens pas précisément appelé à la vie religieuse, je préfère, si je ne suis pas admis chez les oblats, m'en retourner au Mans. » Alors Vital Grandin entre chez les oblats. Et en avril 1854, le supérieur général, que vous connaissez, n'est-ce pas, Eugène de Masneau, ou de Masnode, pareil qu'il faut prononcer Masneau comme on dit du Pernod, hein? Bien oui, Eugène de Masneau, qui a été canonisé récemment, je vous ai fait deux émissions sur lui. Quel grand saint, hein? De Marseille. C'est lui qui l'ordonne prêtre. Et deux mois plus tard seulement, deux mois après son ordination, il s'embarque pour le Canada. Je vais vous parler brièvement de la Société des missionnaires de Provence, fondée en 1816 par les pères Eugène de Masneau et Tempier, qui a adopté en 1826 le nom de la Congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Voyez-vous, c'était assez jeune dans le temps, cette congrégation. Son supérieur général, Eugène de Masneau, devenu évêque de Marseille, donc Monseigneur de Masneau, il est devenu évêque de Marseille en 1837, a été approché, vous vous souvenez de ça probablement, à Marseille en 1841 par le nouvel évêque de Montréal. Qui était le nouvel évêque de Montréal à ce moment-là depuis 1840, si ce n'est que Monseigneur Ignace Bourget, dont le beau tombeau à la cathédrale de Montréal mérite d'être visité. Alors, Monseigneur Bourget lui demande à Monseigneur de Masneau quelques-uns de ses oblats pour le Canada. Et Monseigneur de Masneau accepte la demande de Monseigneur Bourget. Le 29 septembre, en la fête de Saint-Michel, quoi, 1841, quatre oblats de Marie Immaculée s'embarquent à Marseille. Et le supérieur général, Monseigneur de Masneau, lui leur dit au moment du départ, souvenez-vous bien qu'en arrivant, tous les yeux seront braqués sur vous au Canada et que l'on vous jugera d'abord sur l'apparence. On revient difficilement des premières impressions. Or, ils arrivent à Montréal le 2 décembre 1841, après une traversée de plus de deux mois. Six mois plus tard, Vital Grandin, c'est-à-dire le Monseigneur de Masneau, leur écrit « L'avenir de la congrégation dans le Nouveau Monde est entre vos mains, entre vos mains. Oui, ne vous laissez pas entraîner au-delà de vos forces et réservez-vous toujours du temps pour vaquer à l'étude et à votre sanctification. Cela est de rigueur. » Vous allez voir comme Vital Grandin a écouté ça, puis il est devenu un saint. C'est absolument pas phénoménal. Les oblats, donc, avancent à pas de géant. D'abord en territoire proprement canadien, là. Parce que le Canada s'étendait pas jusque dans ces régions-là, dans ce temps-là. Puis ils vont dans les régions encore presque inconnues du nord-ouest canadien. Ces oblats sont les véritables évangélisateurs du Grand Nord. Avant eux, quelques missionnaires jésuites y ont fait un peu de travail, et puis depuis peu, un prêtre canadien extraordinaire, l'abbé Provencher, s'y est aventuré. Il va devenir évêque, d'ailleurs. La première étape des oblats, donc, est aux environs de Québec, où ils séjournent pour une période de préparation ici à Montréal, à Québec. Rapidement, ils prennent contact dans des régions qui n'ont encore ni prêtre ni paroisse. En 1844, ils prennent pied à Ottawa, qui s'appelait dans ce temps-là Bytown, où le commerce du bois, là, vous savez, les draveurs et puis tout ça, ça regroupe une grande quantité de bûcherons puis d'entrepreneurs. Ce sont des Canadiens de souche européenne et irlandais. Des Irlandais aussi, plus récemment arrivés. C'est la seconde étape, mais les Oblats veulent généraliser l'apostolat, le répandre. Ils veulent parcourir les forêts. Ils sont prêts à remonter le cours des rivières, à traverser les rapides. Pourquoi? Pour évangéliser les Métis et les Indiens. Et au printemps de 1845, ils vont au-delà de Bytown, d'Ottawa. C'est la troisième étape. D'autres Oblats se dirigent vers le nord-ouest et parviennent le 25 août 1845 au poste avancé de Saint-Boniface sur la rivière Rouge, au sud du lac Winnipeg. Dans ce temps-là, c'est très sauvage, tout ça. C'est la quatrième étape. Et Saint-Boniface est alors le siège du vicariat apostolique du nord-ouest canadien. C'est un vaste diocèse, immense. Plus de 4,5 millions de kilomètres carrés. Dirigé par l'abbé Provencher, dont je vous ai parlé, qui est devenu coadjuteur de l'évêque de Québec. Ce prêtre s'est rendu à Saint-Boniface en 1820 à la suite d'une demande faite à son évêque par nul autre que la compagnie de l'abbé d'Hudson, ce sont des anglo-protestants, ça, qui désire avoir une mission sur les territoires qu'elle vient d'acquérir. Alors, il a commencé à évangéliser, ce prêtre, les Métis. Puis à partir de 1830, les tribus indiennes, il est vêtu d'une soutane absolument grossière et rapiécée même. Il porte de lourds sabots, ça se portait dans ce temps-là, ici. Et puis il utilise un char à bœufs pour parcourir son immense diocèse. L'abbé Provencher a presque pas d'aide. Et c'est pourquoi il pense faire appel aux Oblats. Et là, vous allez voir que le futur Monseigneur Vital Grandin va faire un travail de géant. Alors ça ne prend pas de temps pour l'abbé Provencher de recevoir ces Oblats qui l'attendent. Ceux qu'on appelle les fils de Monseigneur de Masneau, Saint Eugène de Masneau maintenant, commencent à porter la parole du Christ, comme on dit, dans le Grand Nord. Ils portent ce message sublime, les paroles du Christ. Ces mots fantastiques qu'il a dit, qui nous révèlent des horizons nouveaux, et qui nous font comprendre que nous avons un Père, Dieu qui est notre Père, et que lui, il est l'expression totale de l'amour que le Père nous porte. Et là, il y a déjà là des trafiquants de fourrure de la Compagnie du Nord-Ouest, là, qui a été fondée par les marchands de la Nouvelle-France. Et à partir de 1818, cette compagnie est supplanté par la compagnie anglaise de l'abbé d'Hudson, commanditée par des capitaux britanniques. Évidemment, il y a eu la conquête entre-temps. De Saint-Boniface, la pénétration se fait progressivement par les Oblats, puis par tout le monde. En 1846, 1000 kilomètres au nord-ouest de Saint-Boniface, jusqu'à l'île de la Crosse, c'est énorme, 1000 kilomètres au nord-ouest de Saint-Boniface. L'année suivante, 1500 kilomètres jusqu'au lac Athabasca. 5 ans plus tard, en 1852, c'est 2000 kilomètres jusqu'au lac des Esclaves. On a écrit ce qui suit à ce sujet. C'est l'auteur d'une vie de Mgr Vital Grandin, Père Breton, c'est extraordinaire. Il dit « Les débuts de l'Église dans l'Ouest canadien au siècle dernier furent pour les missionnaires Oblats une ère de sacrifice total. » Écoutez bien ça. « Bagnards volontaires. » Des bagnards, vous savez ce que c'est, des prisonniers, là, dans des prisons terribles. Bagnards volontaires, ils traînèrent avec eux le boulet des privations, de la pauvreté, de la solitude, et par-dessus tout, d'un exil sans fin. Ils usèrent, c'est des Oblats, ça, ils usèrent leur vie dans une prison sans barreaux, à laquelle l'âme remplie de joie, librement, ils se sont condamnés eux-mêmes à perpétuité. Leur chaîne, c'était l'amour des âmes, l'amour des âmes. Il y a des gens qui se demandent pourquoi je fais ces émissions-là. C'est pas pour moi, C'est pour l'amour des âmes. Moi, je suis retraité, je vais avoir 73 ans, je suis pas payé pour faire ce que je fais. Je voudrais tellement arracher les âmes à leur misère. Mais j'ai pas le courage qu'ils ont. Eux, c'est des chaînes qu'ils se mettent, l'amour des âmes qui les habite. Et l'auteur continue en disant, plusieurs furent dans les missions, près d'un demi-siècle. D'autres, depuis 15, 20, 30 ans et même 40 ans. Et la plupart de ces derniers font comme leurs devanciers, ils ne reverront qu'au paradis les personnes qui leur sont chères. Alors, lorsqu'au mois de juin 1854, le père Vital Grandin, 25 ans, arrive au Canada, tout jeune prêtre, Monseigneur Provencher est mort depuis quelques mois. Et Monseigneur Taché, Oblat, lui a succédé comme évêque de Saint-Boniface. Mais le père Grandin, ce jeune père, est encore loin de l'endroit où on va l'expédier. Il prend la route du Saint-Laurent. Il a des grands lacs. C'est très long, très très long, hein, pour remonter vers Saint-Boniface. Alors, quels sont les moyens de locomotion pour traverser le Canada, puis tous ces territoires? C'est le bateau, le train, le char à bœufs. Il arrive à destination le 14 août, et le diocèse de Mgr Taché compte alors 5 missions, avec des résidents, là, des prêtres résidents, et ça s'étend des grands lacs aux montagnes rocheuses, puis de la frontière américaine jusqu'à l'océan Arctique. C'est immense à faire peur. C'était le Nord-Ouest canadien, un territoire aux caractéristiques géographiques les plus variées. Hein. Au sud, il y a des grandes prairies, plutôt désertiques et monotones, où règnent les troupeaux de bisons. Au nord, les forêts très, très denses, hein, entrecoupées de cours d'eau dangereux. Il y a des lacs, des marécages, des rivières où vivent les tribus, environ une vingtaine de tribus, qui parlent plusieurs langues, les tribus d'Amérindiens. Enfin, en direction des régions polaires, là, les déserts glacés, il y a le Barren Land, comme on l'appelait dans ce sens-là. C'est traversé par les grands cours d'eau qui vont se jeter dans la baie d'Hudson, puis dans l'océan Arctique. Alors, les seuls signes de civilisation européenne dans le Grand Nord canadien sont le prêtre, puis le marchand, l'église, quoi, puis la compagnie de la baie d'Hudson. La compagnie de la baie d'Hudson fait le commerce des fourrures, et depuis 1818, cette compagnie-là règne en maîtresse sur ces territoires-là. Ces postes ont l'aspect extérieur d'une ferme européenne, puis ça constitue des unités bien organisées, avec les entrepôts, les maisons du personnel, les magasins remplis de provisions, des chenils, même pour les chiens esquimaux, évidemment. Puis les stocks de marchandises de toutes sortes destinés au troc avec les Amérindiens. Tout ça contraste étrangement avec la pauvreté des missions catholiques. Les agents anglais de la compagnie se retranchent dans leur poste. Ils sont prêts à se défendre contre les attaques des Indiens. Alors que les missionnaires, eux, c'est pas du tout le même esprit qu'ils ont. Ils entretiennent même des rapports suivis avec ces mêmes Indiens dont les Anglais ont peur. Et ils doivent attendre aussi, les missionnaires, ils doivent attendre des Indiens le logement, la nourriture et parfois même des moyens de transport. Ils sont pauvres. Mais avec les Indiens de ce temps-là, il y a les superstitions, le prestige des sorciers. J'ai vu ça en Afrique, le prestige des sorciers, c'est terrible. Et puis les changements d'idées de ces êtres, disons-le, plutôt primitifs, je regrette, et surtout souvent bien mystérieux. Et malgré ces risques, en cas de danger, les agents anglais là, de la compagnie font parfois appel aux missionnaires, qui se rendent seuls et sans armes auprès des Indiens pour les pacifier. Il existe en effet une situation assez étrange entre ces Blancs. D'abord, tout en faisant appel aux prêtres catholiques pour les sortir d'une impasse, les marchands anglais protestants n'hésitent cependant pas à devenir jaloux de l'influence des prêtres catholiques. Puis ils disent, ces prêtres français sont des hommes bien dignes, oui, mais ils vont gâter les sauvages à tout jamais. Et les uns et les autres sont cependant prêts à sacrifier leur vie. Comment ça? Ben, les marchands pour les fourrures. Puis les missionnaires pour les âmes des Indiens. Les observations du père Vital Grandin sur ces deux types d'hommes qui errent dans le Grand Nord sont extrêmement instructives. Écoutez bien ça, je vous lis ça. Nous avons dans le pays une société commerciale dont les membres ont souvent couvert de confusion. Elle a eu ses martyrs avant nous, je l'avoue. Et quel dévouement, quelle souffrance de la part de ses employés. Et cela pour l'amour de l'argent. Nous laisserons-nous donc surpasser en zèle et en générosité par ces marchands de peau de bête? Les âmes de ces pauvres sauvages. Je regrette pour le mot sauvage, c'est le mot qu'on utilisait sans irrespect à l'époque. Hein, c'est pas méchant. Ne croyez pas ça. Les âmes de ces pauvres sauvages ne sont-elles pas le prix du sang de Jésus-Christ? Et on ferait moins pour les sauver que font ces Anglais pour se procurer des peaux de loup? J'ai plus appris à être obéissant en voyant l'obéissance des agents de commerce pour les peaux de bête que je ne l'ai fait au noviciat et au scolastica. Et il dit un autre jour, une foule de sauvages n'ont jamais vu de prêtre. Il n'en est peut-être pas un seul qui n'ait vu des commerçants. De sorte que dans l'immense pays qui m'est confié, il ne se perd pas une peau de bête et des âmes se perdent tous les jours. Oui, moi, c'est ma tristesse, c'est de penser que si Radio Ville-Marie était plus connue, si nous rejoignions plus de gens, il y aurait plus d'âmes sauvées, il me semble. Il y a tellement de belles émissions à Radio Ville-Marie, toutes sortes d'émissions intéressantes. Ailleurs, le père Vital Grandin dit ceci, « On parle de ce que nous faisons pour le salut de ces pauvres sauvages. En faisons-nous la moitié, souffrons-nous le quart de ce que souffrent ces commerçants anglais pour des fourrures ?» Ainsi, avec son sens du sacrifice total, le père Vital Grandin en vient parfois à oublier ses propres souffrances et celles des frères Zeblancs. C'est plutôt difficile de comprendre cette épopée du Grand Nord. Hein? C'est tellement immense, c'est tellement fantastique, ce sont des saints. Il faut penser au milieu dans lequel elle s'est déroulée. Si les Zeblancs avaient eu les équipements puis les provisions des agents de la compagnie de la baie d'Hudson, leur mission aurait été, évidemment, grandement facilitée, c'est évident. Mais ils sont arrivés dans ces régions avec des moyens très limités. Ils étaient assujettis, là, dans ce épouvantable climat rude. Un climat qui est même meurtrier, quand on y pense, le froid abominable. Ils ne disposent pas du nécessaire pour lutter contre toutes les difficultés matérielles aussi. Comme ses frères Zeblancs, le père Vital Grandin ne peut compter que sur bien peu de nourriture. Moi, oh, des vêtements de pauvres, des moyens de transport qui en sont presque pas. Durant son séjour comme simple missionnaire de 1854 à 1857 et ensuite comme évêque, coadjuteur de Mgr Taché et titulaire du siège de l'île à la Crosse de 1857 à 1868, durant 11 ans, quoi, il nous a même fait part du récit de ses aventures. Hein? Les longs périples à travers les déserts glacés, les huttes et les chapelles. Très simple, construite de ses propres mains, avec du matériel de fortune. Alors, prêtre ou évêque, il doit faire face à tout, hein, pour catéchiser, gouverner, bêcher, construire, répondre aux questions, parfois bien innocentes et un peu puériles peut-être, des Indiens, et tenir tête aux fonctionnaires protestants de la compagnie de la baie d'Hudson, qui sont poussés par leurs propres missionnaires protestants. Il passe la majeure partie de son temps sur les pistes, il visite les missions, il prêche. Il célèbre en tant qu'évêque, oui, avec sa mitre. Ça touche beaucoup les Amérindiens convertis. Il administre les sacrements. Il partage sa pauvre couverture, souvent avec quelques Indiens malheureusement pouilleux. Il se chauffe auprès de ses chiens. Il se nourrit parfois de caribou et de castor, ou bien même de perdrix et de lièvre, ce petit gibier blanc hein, qui se confond avec la blancheur de la neige. Mais il lui arrive aussi de manger quelques vagues bouillies, telles que ce qu'il appelle la tripe de roche. C'est une espèce de mousse qui paraît au printemps sur les rochers au bord des lacs Et ce sont aussi les engelures. J'ai déjà eu, moi, des engelures dans des monastères en France en hiver. C'est épouvantable. Ça coupe les doigts, ça coupe, ça saigne. Alors, il a aussi des engelures, les maux de dents et d'oreilles, la peau et les yeux brûlés par le froid et le soleil. C'est un martyr à petit feu. Ce texte, c'est bien celui, je vous le répète, d'un fonctionnaire anglo-saxon, de religion protestante, ou anglicane peut-être. On ne peut s'empêcher de le comparer, ces lignes, quelques lignes écrites par Mgr Grandin, où il décrit son séjour dans le Grand Nord. C'est pas long, 5 lignes, mais c'est bouleversant. « Les pays que nous évangélisons ne sont pas peuplés comme la Chine. Nous ne pouvons vous annoncer des conversions nombreuses. » Et parce que les populations sont très dispersées. Nous pouvons bien mourir de faim et de froid. Nous n'avons pas la chance de mourir martyrs. Nos pauvres missions n'ont pas cette même poésie-là, non. Notre vie est un long martyr, comme je vous disais tout à l'heure, un long martyr, un petit feu, quoi. Mais un martyr des plus prosaïques, connu de Dieu seul et de celui qui le souffre. Alors quand Mgr Grandin assume la direction de son nouveau diocèse, Saint-Albert, il adopte aussitôt une méthode missionnaire bien différente. Et puis, il se trouve en présence d'un pays en plein développement, hein, où les immigrés des États-Unis et surtout de l'Europe, qui viennent du centre de l'Europe, mais aussi beaucoup des îles britanniques, des anglo-protestants, ces gens-là affluent. Ce sont des Blancs qui se trouvent à repousser vers le nord et l'ouest les Indiens, les pauvres Indiens, qui ne tardent pas à se trouver retranchés dans leurs réserves. Et on en a vu ce que ça donne. C'est pas drôle aujourd'hui, la situation de ces pauvres gens dans l'ouest du pays. L'évêque du Grand Nord, en devenant évêque des prairies, découvre une atmosphère nouvelle. Il y a des villes champignons qui l'accueillent avec enthousiasme. Au milieu des cris, des fusillades, des coups de canon et des chevaux qui piaffent, qui caracolent, ça saute partout. Des champs spacieux, comme il écrit, bien enclos et bien cultivés, ajoute-t-il, qui donnent, ajoute-t-il, d'abondantes moissons, des prairies magnifiques. Il dispose aussi de gens qui l'aident, mais qui bientôt ne suffisent plus à l'immense développement de cette jeune église catholique. Jeune catholique, l'Église catholique des prairies. Il écrit, « Je combats toujours de mon mieux. Je suis quelquefois bien inquiet et bien tourmenté, ne sachant comment venir à bout de tout. Les besoins sont extrêmes. Je crains de trop entreprendre. Notre pays appartient maintenant au Canada. » L'unification s'est faite. Hein? « Cela va nous attirer une foule d'étrangers, des Anglais protestants sans doute. » Je crains que ces derniers ne viennent nous couper l'herbe sous le pied en fondant des écoles parmi nos catholiques francophones. Je voudrais obvier à cet inconvénient en fondant des écoles moi-même, mais je n'ai pas ce qu'il me faut pour cela. Les Anglais auront toujours l'avantage de l'argent sur moi. Alors les charges sont innombrables, création de missions nouvelles, entretien des prêtres, des séminaristes, des religieuses, des novices, fondation d'un noviciat justement. Secours de toutes sortes. Dès la première année de son administration, Mgr Grandin n'a pas les moyens, puis les 34 ans de son épiscopat, ça va être simplement qu'une lutte sans arrêt pour amasser des fonds qui sont toujours engloutis par les besoins de son diocèse immense. Il est beaucoup trop vaste. Durant son épiscopat dans les prairies, là, de 1868 à 1902, c'est long ça, 34 ans, il meurt en 1902. Il sera constamment sur la brèche, vers la fin de sa vie, perclus par les maladies, à cause de toutes les privations, là, et les épreuves. Il veut continuer à travailler fort. Un évêque de feu. Il essaie d'éviter à son évêque coadjuteur les difficultés qu'il a eues au début, lui. Alors, ses fonctions d'évêque et de missionnaire sont à tel point liées chez lui et qu'il ne peut à aucun moment séparer les unes des autres. Alors, de son siège épiscopal de Saint-Albert, qui va devenir en 1912, 10 ans après sa mort, l'archevêché d'Edmonton, il n'arrête pas de rayonner dans l'Ouest canadien. Il pousse jusqu'à Ottawa, la capitale, pour intervenir auprès des membres du gouvernement, et même jusqu'à Rome, pour demander au pape lui-même de l'appuyer dans son action missionnaire et épiscopale. Les besoins immenses de cette région, qui se développe à une rapidité vertigineuse, vont toujours en augmentant, puis Il doit tour à tour défendre l'égalité raciale entre les Indiens puis les Blancs. Elle est constamment menacée, cette égalité raciale, par le flot d'immigrants de souche européenne qui écartent systématiquement les métis francophones puis les Indiens. Il doit secourir des populations atteintes par les épidémies, la famine puis la révolution. Il doit aussi défendre ses écoles catholiques françaises menacées par l'influence croissante des écoles protestantes anglaises. Et puis, il faut sauver les Indiens de la destruction totale et encourager l'avenue de familles catholiques pour contrebalancer l'influence des collectivités anglicanes, méthodistes, presbytériennes et enfin baptistes pour faire venir des catholiques du Québec et d'autres. Et pour toutes ces activités, il a besoin non seulement d'hommes et de femmes de bonne volonté, mais aussi de plus d'argent. Or, les sommes envoyées par l'œuvre de la propagation de la foi, là, qui est établie à Rome, sont insuffisantes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il essaie d'organiser des quêtes. Puis, il cherche à constituer pour le Nord-Ouest canadien une association comme celle de l'œuvre des écoles d'Orient qui existe au Moyen-Orient. Et, malgré l'appui de Léon XIII et du cardinal Manning, il ne peut réaliser ses projets sur l'opposition catégorique de l'œuvre de la propagation de la foi. Écoutez bien ça, Mgr Grandin avoue, au lendemain d'une visite faite au trésorier de l'œuvre au Vatican, il dit « Le trésorier m'a administré une de ses semences pour avoir cherché à me procurer par ailleurs des secours que la propagation de la foi ne pouvait me procurer suffisamment. » Puis il ajoute « Malgré mes 15 ou 20 ans d'épiscopat, j'étais presque traité comme un écolier pris en défaut par son maître. » Alors, bon, disons que les raisons de la propagation de la foi étaient sans doute inspirées par le désir de coordonner les secours sur le plan mondial, alors que Mgr Grandin, bon, avec sa générosité puis son élan de charité, lui, il ne voyait que l'épanouissement de l'Ouest canadien dont il était le pasteur. En 1833, 5 ans après cet échec, il fait appel à l'épiscopat canadien. Il écrit « Il nous faut à tout au moins la nourriture et le vêtement. Ils ont pas assez de nourriture, pas assez de vêtements. Ils sont pauvres, pauvres, pauvres. » Il dit « Cela suffisait aux apôtres. Nous nous en contentons aussi. Mais encore faut-il l'avoir. » Les missionnaires Oblats et les Sœurs Grises sacrifient tout ce qui peut être sacrifié. Ils ne reculent devant aucune privation. Ils mourront à la tâche s'il le faut, comme plusieurs parmi eux sont déjà morts. Mais de grâce que leurs frères du Canada leur fournissent les moyens d'utiliser tant et de si grands sacrifices. Mais Seigneur, vous avez des œuvres importantes à soutenir et à créer. Est-il dans le monde un évêque, un curé qui ne puisse faire le même raisonnement? Du reste, il ne s'agit pas de faire de nos sauvages des messieurs, mais des chrétiens. Alors, il demande enfin à l'épiscopat du Canada la réalisation de son projet d'association pour les écoles du Nord-Ouest. Alors, les évêques se limitent à recommander une quête annuelle. Une intervention auprès du premier ministre canadien n'est pas plus de succès. On n'écoute pas à Ottawa. En 1891, 11 ans avant sa mort, en présence de l'extension du diocèse de Saint-Albert, Rome détache les missions du nord de la Saskatchewan qui constitue le diocèse du Prince Albert. Et en 1900, l'évêché de Mgr Grandin, donc 2 ans avant sa mort, est solidement établi. Il comprend un petit séminaire avec 11 étudiants, 30 paroisses avec des prêtres qui y résident, là, et 25 dessertes qui leur sont attachées. Puis il y a 31 écoles élémentaires, 8 écoles avec des pensionnats, une école industrielle. C'est fantastique. 2 orphelinats, 5 hôpitaux, 52 prêtres, dont 42 oblats de Marie Immaculée et 10 prêtres séculiers. Il y a 24 frères coadjuteurs oblats. Des vocations, il y en a. 136 religieuses. 52 sœurs grises de Montréal, des sœurs grises de Nicolette, des sœurs fidèles compagnes de Jésus qui viennent de Bretagne. 20 sœurs de l'Assomption, 4 sœurs de la Providence, 5 sœurs de la Miséricorde. Les gens répondent, mais il y a le problème des missions protestantes qui ont conçu une des grandes préoccupations de Mgr Grandin tout au cours de sa vie de prêtre et de missionnaire. Et ce problème est d'autant plus important qu'on retrouve ce problème non seulement au Canada, mais dans tous les pays de mission. Et lorsque Mgr Vital Grandin arrive dans le Grand Nord, il trouve plusieurs missions protestantes qui fonctionnent depuis quelques années autour des postes de la compagnie de la baie d'Hudson. La plupart sont tenues par des anglicans, mais d'autres missionnaires viennent par la suite. Il y a les méthodistes, les presbytériens. Ils arrivent avec des moyens bien plus importants que les catholiques et leur apostolat porte des fruits remarquables. et Monseigneur Grandin éprouvent beaucoup d'angoisse. Alors les choses se précipitent, et dans le Grand Nord, comme ensuite dans les prairies, c'est une course vers les points les plus éloignés. Puis dans la plupart des cas, les protestants ont l'avantage. L'avantage sur les catholiques, de se voir soutenus par les agents des grandes entreprises commerciales anglaises et des services publics qui sont aussi entre les mains des Anglais. À diverses reprises, Monseigneur Grandin, comme bien d'autres évêques catholiques, doit intervenir auprès de l'administration d'Ottawa pour empêcher le favoritisme qui favorise toujours les anglophones. Les catholiques ont cependant l'avantage de constituer un bloc homogène. C'est une seule église, l'église catholique, c'est pas divisé. Du moins à cette époque. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui non plus, je l'espère. Il dit, je vois pour ma part l'action visible de la Providence dans l'arrivée et la multiplicité de ces églises protestantes dans notre territoire. Et je suis convaincu qu'elles ont servi beaucoup, sans s'en douter, à l'extension de l'Église catholique. C'est un point de vue. Alors, dans les prairies, l'envahissement protestant est encore plus important dans le Nord, hein. En 1880, on évalue la population chrétienne à raison de 3 catholiques pour un protestant. En 1880, 3 catholiques pour un protestant. Les catholiques sont de langue française. Nous sommes majoritaires. Et les protestants de langue anglaise, minoritaires. Cependant, l'anglais s'infiltre dans toutes les activités de la vie administrative et courante du pays. Au point que Monseigneur Grandin en vient à constater ceci. C'est ce qu'il écrit. Nos meilleures familles veulent mettre leurs enfants chez le ministre anglophone pour apprendre l'anglais. Comme on faisait ici même au Québec souvent. Il a essayé de prévenir la difficulté en encourageant la fondation d'écoles catholiques françaises sans y parvenir. Il a toutefois réussi à installer quelques congrégations de religieuses de langue française pour amoindrir les dégâts et les progrès de l'immigration d'anglophones. Et par conséquent du protestantisme ne fait que s'accentuer ainsi qu'il résulte des chiffres suivants qui sont l'état des chrétiens dans le nord-ouest canadien entre 1881 et 1901, l'année avant sa mort. Je vous donne ces chiffres très brièvement, je ne fais pas une analyse complète, c'est donné dans les vies que l'on fait de Mgr Vital Grandin car ça lui était extrêmement cher et ça a été l'un des grands défenseurs de la langue française et du catholicisme dans l'Ouest. En 1881, les catholiques sont au nombre de 4400. Et les autres, de 3300. En 1891, les catholiques sont 13 000. Et là, les autres, anglicans, presbytériens, méthodistes et baptistes, sont rendus à 32 000. 13 000 contre 32 000 en 91, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard encore, les catholiques se sont multipliés, sont rendus 40 000, mais les autres sont rendus à 95 000. Alors, si nous sommes submergés, les dernières années de Mgr Vital Grandin sont assombries aussi par la maladie. Il subit tout cela avec la patience qui le caractérise. C'est un saint. La veille de sa mort, il reçoit la communion, le viatique, comme on dit, et il demande pardon à ses collaborateurs de ses manquements. « Et de ses faiblesses, dit-il. » Ce sont ses mots. Manquement et faiblesse. Et il ajoute, « Je crains de vous avoir mal édifié. J'en demande pardon à Dieu. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire le bien. » Monseigneur Grandin, dont les prénoms étaient Vital, Justin et Grandin, était de santé fragile depuis sa petite enfance. Et il a tout fait ça. Fin de sa vie, évidemment, son état s'est aggravé. Il souffrait de graves maux d'oreilles, d'abcès, d'infections. Dès 1875, donc plus de 25 ans avant sa mort, il a peur de devenir sourd. Malgré les soins qu'il reçoit en France, ses problèmes persistent et se compliquent par la suite de désordres internes et puis d'hémorragie même. En raison de son âge et de sa santé, il demande à être relevé de ses fonctions d'évêque et de vicaire des missions, mais Rome refuse, car on l'admire beaucoup, on refuse sa démission. Mais gentiment, quelque temps après, en 1897, Rome nomme Émile-Joseph Legal, évêque ou adjuteur de Saint-Albert quand même, pour l'aider. La santé de Monseigneur Grandin continue de décliner, mais il exerce ses fonctions quand même jusqu'à sa mort. Il s'éteint tout doucement. Ce vénérable Monseigneur Grandin, il a été déclaré vénérable en 1966. Il s'éteint tout doucement au matin du 3 juin 1902. Il a été inhumé dans la deuxième cathédrale de Saint-Albert et transféré en 1906 dans une crypte nouvellement inaugurée. L'introduction de la cause en cour de Rome a été décrétée en 1937, mais on attend toujours. À la reconnaissance officielle de sa dépouille, on a constaté que son corps était presque intact en 1938. À la fin de 1957, la Sacrée Congrégation des Rites a donné son approbation pour la poursuite de la cause. Il y a plusieurs vies qui ont été écrites de lui. Il y a surtout le père Breton, Vital Grandin, la merveilleuse aventure de l'évêque des Prairies et du Grand Nord, paru chez Fayard à Paris en 1960. C'est un ouvrage absolument intéressant qui contient toute une documentation de textes originaux. Et puis, il y a une bibliographie complète pour l'époque, 1960. Il s'est écrit bien des choses depuis.